Carte blanche au logiciel libre, deuxième du nom, en ce lundi 19 mai. Bonsoir à tous qui vous nous écoutez. Je dis bonsoir aussi à Anthony de l'ECM Kawenga. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Gilles.
Et puis bonsoir à Jean-Claude Stigler qui est avec nous encore ce soir.
Bonsoir Gilles.
Alors, bien Albert Bruck va nous rejoindre dans un petit moment. Il est coincé dans les embouteillages. Alors, on va rappeler que c'était au mois de mars qu'on avait fait cette première émission. On avait notamment parlé de TCPA Palladium. Peut-être est-ce que l'un de vous deux a eu des nouvelles récentes et fracassantes sur ce sujet ô combien douloureux ?
Malheureusement non, il n'y a pas vraiment de nouvelles. On en est toujours au même point. La seule chose, c'est que Microsoft a changé le nom de son projet pour que les gens pensent un peu à autre chose. Ça s'appelle plus Palladium, ça s'appelle autrement. Mais sur le fond, les choses sont toujours en l'état.
Ça s'appelle autrement, comment exactement?
Ah, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais
On fera sans doute un numéro spécial là-dessus. En tout cas, le libre est assailli de toutes parts. Comme quoi, la révolution du logiciel libre, elle est bien en marche, hein, puisque si ça motive ses détracteurs pour s'y opposer, ça veut bien dire que ça représente quelque chose.
Absolument. Je pense que Microsoft a bien compris qu'aujourd'hui, la seule chose qui soit vraiment dangereuse pour son entreprise et pour son monopole, ce sont les logiciels libres dans leur ensemble, qu'ils soient sous Linux ou même sous Windows d'ailleurs.
Alors les logiciels libres, une réflexion qui alimente aussi les politiques ou les sociologues, puisqu'on parle de liberté des États qui irait de pair avec la liberté des logiciels. C'est vraiment une question qui touche à la philosophie, à la politique, qui touche à l'économie. Je crois que dans la façon d'entrevoir le logiciel libre, cette façon contributive que nous on connaît bien en tant que médias associatifs, il y a aussi peut-être un nouveau modèle économique qui pourrait être mis en place et répondre à toutes les questions que se posent les gens qui trouvent que l'économie, c'est un petit peu n'importe quoi de nos jours.
C'est tout à fait juste. Je connais d'autres secteurs d'activité, autres que les logiciels libres, dans lesquels les gens se disent, mais après tout, ce qu'arrivent à faire les logiciels libres, pourquoi est-ce que nous n'y arriverions pas? Alors, la seule difficulté quand même, qui est de taille, c'est que le logiciel, par nature, c'est un bien intellectuel. Une fois qu'on l'a écrit, une fois qu'on l'a produit, on peut le reproduire à l'infini sans que ça coûte quoi que ce soit de plus que sa reproduction.
Ce qui n'est pas le cas d'un produit matériel.
Ce qui n'est absolument pas le cas d'une baguette de pain, par exemple.
Tout à fait.
On ne peut pas aller chez son boulanger, faire une photocopie de la baguette et manger la photocopie. C'est un modèle de développement qui est propre, je crois, aux productions intellectuelles. Dès l'instant où on tombe dans la production de type matériel, là, ça ne colle plus.
Alors, cette émission du 17 mars avait plutôt bien fonctionné. On a eu des gens très actifs de la communauté linuxienne qui nous ont contactés. J'ai oublié son prénom, mais il nous appelait du Japon. Erwan, j'espère qu'ils sont tous au rendez-vous ce soir. Alors, avant de détailler le sommaire de cette émission, on va aussi dire un mot du fait que ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'il y a je le disais tout à l'heure, il y a des points communs entre une radio comme Divergence FM et puis le logiciel libre, c'est la contributivité. C'est pas une notion qui est lettre morte, en tout cas qu'il l'est pas pour vous deux puisque vous êtes avec nous ce soir, mais qu'il l'est pas aussi pour Albert puisqu'il nous a généreusement aidé à mettre en place une architecture dynamique pour le futur site de Divergence qui devrait être en ligne. Je sais pas si c'est déjà fait, en tout cas le transfert a été commandé, il a été bien reçu, donc il reste plus qu'à attendre une paire de douzaines d'heures pour que tout ça soit en place. Et puis ça donnera lieu, donc on en parlait, à une émission l'année prochaine, une émission mensuelle qui aura lieu a priori le quatrième jeudi du mois ou en début de soirée. On ne sait pas encore l'horaire, mais qui sera l'occasion d'être un petit peu plus relax, parce que c'est vrai que la première émission du mois de mars c'était une première. Là aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans cette émission. J'espère qu'on va réussir à tout faire rentrer, mais ce sera un avant-goût aussi puisque on a au travers des éminents linuxiens que vous êtes, on a eu aussi des contacts donc avec des gens aussi important que Frédéric Rénal, rédac chef de MISC, et puis que Thierry Stoer, qu'on aura en toute fin d'émission. Dire un mot sur ces deux personnages.
Ces deux personnages qui maîtrisent très très bien chacun leur domaine d'activité. Comme tu l'as dit, Frédéric Rénal s'occupe de sécurité. C'est vraiment un spécialiste de la sécurité, toute plateforme confondue. C'est pas propre à Linux, il est tout aussi capable de parler de sécurité sur n'importe quel système. Quant à Thierry Stoer, lui, c'est aussi une personnalité du logiciel libre. Il est particulièrement attaché à la vulgarisation des logiciels tels que OpenOffice, qui permet d'être utilisé dans les entreprises, dans les administrations. Donc c'est un militant à l'intérieur de toutes ces grandes entreprises, publiques ou privées d'ailleurs, mais il donne souvent des conférences sur ce sujet.
Voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs, ce que je trouve bien, c'est que c'est des gens accessibles. Et c'est ce qui est important, c'est qu'on va avoir affaire à des spécialistes, mais qui sont accessibles au grand public, avec un travail de vulgarisation derrière. Donc, je trouve que c'est un point important.
Voilà, tu as toi-même, Anthony, posté un mot, je crois, sur le linuxfrench.net, dans le courant du week-end.
Ouais, exact. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours par rapport au forum, mais je suis content, ouais. J'avais envie d'envoyer un mot, justement, par rapport à la démocratisation de Linux, qui est encore, y a plein de travail à faire sur le sujet.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un ordinateur. Il y en a parmi ces personnes-là, il y en a un pourcentage peut-être pas très important de gens qui connaissent l'existence même hein, de systèmes d'exploitation alternatifs. Et puis parmi ces personnes-là, il y en a combien de pourcents qui savent qui l'utilisent et qui l'ont installé et qui ont franchi le pas. On se pose la question.
La question, on se la pose souvent quand on est un militant des logiciels libres, ce qui est mon cas, ce qui est le cas d'Anthony, d'Albert et de bien d'autres. On sait bien qu'on parle très souvent avec des utilisateurs d'un autre système d'exploitation, qu'on arrive à convaincre un certain nombre d'entre eux que ce serait bien de passer au logiciel libre. Maintenant, pour franchir le pas, c'est-à-dire dire, ma machine, elle est sous tel système, je vais basculer sur un système totalement libre, là, c'est autre chose. C'est une démarche qui est beaucoup plus difficile à faire. Les gens ont souvent peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir de support, peur de ne pas pouvoir retrouver les documents qu'ils avaient déjà élaborés. Et c'est vrai que ces trois peurs-là, elles freinent beaucoup. Donc moi, je sais que depuis un an, j'ai réussi à faire passer quand même une bonne dizaine de personnes qui ne sont absolument pas informaticiennes à un système New Linux. En l'occurrence, il s'agissait de la Mandrake parce que pour moi, c'est la plus simple et la plus élaborée de ce point de vue pour l'utilisateur ordinaire. Et là, ça commence à vraiment bien fonctionner. Donc, je pense que c'est une démarche qui va aller de plus en plus de soi pour beaucoup d'utilisateurs. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui.
Voilà, c'est pas encore le cas aujourd'hui. On faisait allusion donc à nos deux chroniqueurs, Frédéric Reynal et puis Thierry Stoer. Pour aujourd'hui, Frédéric Reynal nous a fait parvenir une chronique qui traite en fait de la sécurité informatique. Je pense que tu as eu l'occasion de l'écouter.
Et oui, je l'ai écouté juste avant de venir. Donc, il faut aussi avertir nos auditeurs que c'est une rubrique technique. Donc, il est possible que certains de nos auditeurs aient du mal à la suivre, mais néanmoins, je vous engage à l'écouter parce que, au-delà d'un discours très technique, il y a aussi des choses qui sont tout à fait abordables par tout un chacun.
Voilà. Et puis, juste après cette chronique, on sera là pour recueillir vos appels, vos questions éventuellement, pour expliciter un petit peu ce qui aura été dit pour ceux à qui ça aura été un petit peu abscon. Et puis, on aura aussi une interview de Gaël Duval. Ce sera à 19h30, une interview de Gaël Duval qui est aujourd'hui attaché de communication pour Mandrake Soft, mais qui est un des cofondateurs de cette unique société qui édite une plateforme Linux en France.
Gaël Duval est cofondateur de Mandrake Soft, comme tu viens de le dire, mais c'est le fondateur de Mandrake, tout court.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est lui qui a lancé
l'idée et
le projet Mandrake sur Internet il y a maintenant 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, mais je crois que c'était en 98, quoi.
Donc on va retrouver la chronique que nous a proposée Frédéric Reynal, où il nous parle de sécurité informatique. Alors la sécurité informatique, qu'est-ce à quoi ?
Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qui sont les attaquants ? En fait, il peut s'agir d'absolument n'importe qui. Les connaissances sont maintenant complètement partagées et disponibles à peu près n'importe où. On trouve de nombreuses et excellentes revues, enfin excellentes, il y a MISC. On trouve de nombreux livres sur le sujet, des sites internet. Il y a des formations universitaires ou en école d'ingénieurs qui sont spécialisées dans cette discipline. Donc le savoir est disponible. De plus, les outils sont également disponibles et certains permettent de lancer des attaques sans même comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents. Parfois, ça va même plus loin puisque pour certaines failles, aucun outil n'est absolument nécessaire. Par exemple, un navigateur peut tout à fait convenir. On peut légitimement se demander quelles sont les motivations des attaquants. En fait, il y en a à peu près autant qu'il y a d'attaquants. On peut distinguer quelques grandes catégories. D'abord, dans un contexte de guerre de l'information ou guerre économique, ça peut être du vol pour du vol, de la manipulation ou de la désinformation, par exemple. Quelqu'un qui va chercher à pénétrer sur un système pour accéder à des informations confidentielles. Ça peut être tout simplement pour une bête raison de revanche, par exemple un employé qui a été licencié, qui avant de partir laisse un petit cadeau dans le système informatique, type par exemple un virus qui se déclenchera à une date ultérieure. Ça peut être aussi des motivations politiques, religieuses ou éthiques, comme on a vu dernièrement avec certains Français qui sont allés attaquer des sites liés au gouvernement américain. Ou alors ça peut être tout simplement pour le sport, pour le fun. Bien, faisons maintenant une petite parenthèse zoologique pour examiner la faune qui évolue dans la sécurité informatique. Alors tout d'abord, on trouve le newbie. Le newbie, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui cherche à en acquérir, qui cherche à apprendre. Donc contrairement à l'utilisation faite par certaines personnes, je ne trouve pas que ce soit un terme péjoratif. Maintenant, on va rentrer dans les termes péjoratifs. Alors il y a le lameur. Le lameur, c'est quelqu'un qui est pas trop compétent, mais qui se prend quand même pour un demi-dieu parce qu'il arrive à attaquer des systèmes à l'aide d'un clicodrome. Au-dessus du lameur, on a bien plus dangereux le script kiddie. Le script kiddie, lui, il a pas besoin d'interface graphique. Il a éventuellement quelques notions de réseau, de système ou de programmation. Au-dessus du script kiddie, on trouve le warlord. Le warlord, il connaît tout sur tout et aucun système peut lui résister. Il est capable de rentrer n'importe où et de faire n'importe quoi. Et enfin, le dieu, le super pirate, c'est le élite. Lui, il sait tout faire. Pour conclure ce petit cours de zoologie, je vous recommande fortement d'aller voir le site de Human Bomb. http://hb.rstack.org. C'est vraiment très drôle. Alors je vous rassure, il n'est pas sérieux, c'est fait exprès, mais c'est vraiment très très drôle. Et même si c'est caricatural, c'est pas loin de certaines personnes que j'ai citées précédemment, de certaines catégories que j'ai citées précédemment. Pour conclure ce petit cours de zoologie, je vous recommande fortement d'aller voir le site de Human Bomb. http://hb.rstack.org. C'est vraiment très drôle. Alors je vous rassure, il n'est pas sérieux, c'est fait exprès, mais c'est vraiment très très drôle. Et même si c'est caricatural, c'est pas loin de certaines personnes que j'ai citées précédemment, de certaines catégories que j'ai citées précédemment. Essayons maintenant de définir ce qu'est la sécurité informatique. Pour moi, c'est la capacité pour un système à protéger ses informations et ses ressources en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. On peut le définir autrement, c'est la capacité pour un système à se prémunir et à détecter les actes non autorisés. Alors je vais revenir sur les notions de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité qui sont au cœur du problème de la sécurité informatique. La confidentialité, c'est s'assurer que seules les personnes autorisées accèdent aux informations appropriées. L'intégrité, c'est s'assurer que les informations ou les ressources qui sont disponibles sur le système n'ont pas été modifiées ou altérées. Enfin, la disponibilité, c'est s'assurer que les informations et les ressources sont attribuées aux personnes autorisées quand elles en ont besoin. Donc, au travers de ces définitions, on comprend mieux maintenant quels sont les objectifs de la sécurité informatique, c'est-à-dire la prévention, empêcher les attaques, la détection, savoir quand est-ce qu'il y a une attaque, et la restauration, c'est-à-dire ce qu'il se passe après une attaque pour remettre le système en... Pour atteindre ces objectifs, on distingue quatre lignes de défense principales. Tout d'abord, la mise en place d'une politique de sécurité. Ça, c'est une solution qui n'est pas technique, mais la sécurité informatique ne se limite pas à un aspect technique. Il y a un aspect humain qui est très important, donc cette ligne de défense est absolument capitale. La politique de sécurité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va définir ce qui est autorisé et ce qui est interdit sur le système d'information. Elle doit absolument être suivie par tout le monde, d'où la nécessité d'avoir un responsable de la sécurité informatique qui soit indépendant, le fameux RSSI. Ça passe également par une formation des utilisateurs. Il ne faut pas qu'ils perçoivent la politique de sécurité comme une entrave, mais comme quelque chose qui va être un plus, un bénéfice pour leurs conditions de travail. Une autre ligne de défense, c'est une science, la cryptographie, qui est destinée à protéger l'information. En crypto, on va définir des primitives. Ces primitives vont être assemblées pour construire des protocoles qui vont vérifier tout un ensemble de propriétés. C'est par exemple le cas de la signature numérique. Quand vous signez un document numériquement, cela permet de vérifier tout un tas de propriétés, qu'il n'a pas été modifié, que c'est bien vous qui l'avez signé, etc. Toutefois, il ne faut pas oublier que la cryptographie à elle seule ne garantit pas la sécurité. Il peut y avoir des problèmes d'implémentation dans les algorithmes, et puis une faille peut très bien, d'un point de vue théorique, ne pas être connue à un moment donné et être découverte plus tard. Autre aspect important de la ligne de défense, c'est la configuration. Là, il y a tout un tas de concepts essentiels, comme par exemple la minimisation des privilèges ou alors la mise en place d'un contrôle d'accès sur les ressources et les informations. Enfin, aspect souvent négligé, l'audit du système, c'est-à-dire qu'il faut contrôler tout le temps ce qui se passe sur le système et partout. Il faut se tenir au courant des dernières failles. La sécurité est quelque chose qui évolue très vite, très rapidement, et même si le système est considéré comme sûr à un instant T, ce ne sera pas forcément le cas à l'instant T plus 1. Enfin, pour terminer, quelques mots sur les limites de la sécurité informatique. Tout d'abord, les limites techniques. Ne croyez pas les arguments marketing qui vous disent qu'avec tel ou tel produit, firewall personnel ou antivirus, vous serez à l'abri d'absolument tout. C'est complètement faux. Par exemple, dans le cas des antivirus, ils fonctionnent à l'aide d'une base de signature. Et quand un document arrive sur votre ordinateur, il va regarder dans ce document s'il ne trouve pas un virus connu dans sa base. Mais pour que ce test ne soit pas trop long et que le logiciel ne soit pas énorme, cette base qui contient des signatures, elle est mise à jour régulièrement. Et comment est-ce qu'elle est mise à jour régulièrement? En ajoutant les signatures des nouveaux virus. Oui, mais si on ne fait que ça, elle va devenir très très énorme, très très importante. Donc, pour limiter sa taille, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les signatures des vieux virus. Donc si vous lancez une attaque virale en utilisant un virus d'il y a 5 ou 10 ans, il y a fort à parier que votre antivirus ne détectera absolument rien. Autre limite, l'aspect législatif. Prenez bien soin quand vous faites de la sécurité informatique à rester dans un cadre légal. Celui-ci est assez précis et définit ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, il y a des situations dans lesquelles un administrateur va être autorisé à examiner le mail de ses utilisateurs, alors que dans d'autres situations, ça ne sera pas le cas. Et en général, de toute façon, ce n'est pas le cas. Dernier problème en sécurité informatique, c'est que ce n'est pas uniquement une discipline technique ou scientifique, il y a également un facteur humain très important qui intervient. On le voit par exemple avec le choix des mots de passe. Certaines personnes choisissent des mots de passe qui vont être très facilement devinables, et parfois les systèmes d'information aident encore plus à deviner ce mot de passe. C'était le cas il y a quelques années des Yahoo et autres Hotmail, quand la question qui permettait de se rappeler du mot de passe était accessible à tout le monde.
Et voilà, c'était donc la chronique signée Frédéric Rénal, une chronique un petit peu cut, mais pour la mise en forme, on verra à l'avenir. En tout cas, il est peut-être important de rajouter que les gens se sentent peut-être pas souvent concernés par la sécurité informatique, si ce n'est pour le virus qu'ils peuvent éventuellement choper sur leur machine. Mais tu voulais faire une précision technique qui peut sensibiliser tout le monde.
Ouais, parce que les gens sont de plus en plus interconnectés. Maintenant, on n'est plus des machines isolées, on est dans un réseau. Et en fait, même si votre machine n'est pas intéressante en soi, parce qu'il n'y a pas des données intéressantes pour celui qui attaque, elle peut servir par contre de relais et elle peut servir à attaquer d'autres machines. Et là, vous seriez responsable d'avoir laissé votre machine ouverte, entre guillemets, pour ces attaques.
C'est-à-dire que si je suis connecté sur mon compte en banque pour faire un virement à ma grand-mère ou l'inverse, on peut passer par ma machine pour aller foutre la zone chez mon banquier?
On peut servir, pas là précisément, mais on peut servir de votre machine pour attaquer par exemple des serveurs de mail, enfin bloquer des services sur d'autres serveurs, parce qu'on a besoin d'énormément de machines en général pour ce genre d'attaque. Mmh. Et si votre machine n'est pas protégée, vous pouvez être responsable de ces attaques.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques années avec Yahoo et d'autres grands sites.
Voilà, c'est Albert Bru qui nous a rejoint, qui s'est enfin extirpé et de la pluie et des embouteillages. Bonsoir Albert.
Bonsoir à vous tous.
Alors on va tout de suite embrayer sur vente liée, vente forcée, puisqu'on prend un petit peu de retard évidemment. Vente liée, vente forcée, qui a un thème qui a fait parler de lui assez récemment avec l'affaire Hewlett-Packard, qui a vu un des acheteurs gagner un procès. Qui veut faire un petit rappel
Il est pas allé jusqu'au procès.
Voilà, il est pas allé jusqu'au procès,
c'est le cas de Michael, qui est un des lecteurs assidus de Linux French et qui nous a envoyé donc son histoire. Il a acheté un ordinateur portable il y a de cela un an, en mars 2002 donc, et il a essayé depuis plus d'un an de se faire rembourser la partie logicielle. Vu qu'il travaille avec un système d'exploitation libre, GNU Linux, il a voulu faire disparaître tout simplement l'abonnement de sa machine Windows et les logiciels qui étaient attenants. Donc, il a envoyé un courrier à Carrefour, je sais pas si je le dis pas, à Carrefour et à Packard pour leur dire « Moi, je ne veux pas de vos logiciels, je veux la machine seule, sans logiciel. » Et ça a duré comme ça pendant un an où tout le monde s'est renvoyé la balle en disant que c'était pas moi, c'est l'autre, etc., etc. Jusqu'au moment où Michael a, d'une part, envoyé un courrier à la DGCCRF. Alors la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence
et de la Répression des Fraudes.
qui ne sert d'ailleurs pas qu'à ça. Et c'est, il a aussi envoyé un courrier à Carrefour. La direction générale est allée voir Carrefour, leur a donc sommé de faire ce qu'il fallait, mais les choses ne sont pas allées plus loin, parce qu'en fait, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, je vais y arriver, enfin, n'est là que pour constater les infractions. Michael, pour se faire rembourser du système dont il ne servait pas, a dû aller au tribunal d'instance, donc devant un tribunal civil, et aller en conciliation contre Hewlett Packard. Du moment qu'il est allé au tribunal civil, Hewlett Packard, dans les deux semaines qui ont suivi, lui ont remboursé 25% du prix de son ordinateur.
Alors ça, c'est peut-être c'est pas un truc auquel il s'attendait, mais du coup, ça fait un petit peu office de jurisprudence ou pas?
En fait, tant qu'on n'est pas allé jusqu'au procès, la jurisprudence n'a pas lieu. Mais dans les faits, le code de la consommation dit bien que lier un outil à un autre est interdit. Je prends un exemple tout simple qui, pour la ménagère de moins de 50 ans, c'est celui du pack d'eau. Par exemple, quand vous allez acheter un pack d'eau, vous en avez en général 6. Rien ne vous interdit d'en enlever une du lot et d'aller à la caisse et la payer. On ne veut pas vous l'interdire. Il en est de même, par exemple, avec les CD. Vous avez en général des boîtes de 10, mais rien ne vous empêche non plus d'en prendre un seul. Il y a d'ailleurs un sketch de Des Proches très connu sur les piles qui a fait la même référence. Et ça, c'est légal. Alors ça, on peut le porter dans l'informatique. De l'eau à l'ordinateur, c'est simple. L'ordinateur, c'est quelque chose de physique, de matériel. Le logiciel, c'est quelque chose d'immatériel. Ce sont deux choses bien séparées, bien distinctes. Donc, ils ne sont pas liés.
Voilà, je renverrai pour le côté juridique de tout ça sur le dossier de presse est disponible sur linuxfrench.net, un dossier de presse dans lequel justement on pointe très précisément les textes de loi, que ça soit au niveau du commerce ou du droit civil qui rendent illégale la vente liée. Malgré tout, comme beaucoup de choses d'ailleurs qui sont illégales, c'est quand même pratiqué, et puis alors plutôt deux fois qu'une.
Ben oui, c'est pratiqué plutôt que fois qu'une, mais ce n'est pas la seule chose. Quand vous allez acheter un ordinateur chez
dans
une grande surface ou même ailleurs, et vous avez des grandes sociétés que nous ne citerons pas, généralement américaines, qui vous vendent des ordinateurs sur leur site internet avec obligatoirement un système d'exploitation et toujours le même. Donc pour vous, il vous est impossible de choisir tel ou tel système d'exploitation. Cela s'adresse aux particuliers, parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui est professionnel, le fait de lier un système à un ordinateur est légal. Ne me demandez pas pourquoi, c'est à l'Assemblée que ça s'est décidé, mais pour le particulier, la vente par lot est interdite, ou la vente liée est interdite. Par contre, pour les sociétés, elle est autorisée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que autant pour les sociétés que pour les particuliers, il faut savoir quand vous achetez quelque chose, que ce soit un ordinateur ou autre, et que plusieurs éléments le composent. La facture que vous allez recevoir doit faire figurer tous les éléments qui la composent. C'est-à-dire, par exemple, un ordinateur, vous avez votre ordinateur, mais si vous avez derrière un système d'exploitation, il doit y être. Des logiciels antivirus, firewall, lecteurs de DVD, etc., etc. Tous ces produits doivent être notifiés dans votre facture et avoir un prix en face, ce qui n'est malheureusement pas le cas quasiment nulle part. Et ça aussi, c'est illégal.
Alors, est-ce que ça peut se retourner éventuellement contre l'acheteur? C'est-à-dire que je vais acheter un ordinateur avec 30 000 logiciels et tout ça. J'ai une facture non détaillée. Est-ce que si un jour mon ordinateur est tombé en panne, que je ramène ma facture à mon assembleur, il me dit « Ah, mais votre facture, il n'y a pas tout de marqué dessus, c'est pas légal, je ne peux pas vous rembourser ?» Non.
Bah, qui ne dit rien consent. Cette phrase-là est assez claire. C'est-à-dire, du moment que vous prenez quelque chose, vous le prenez dans l'état. Après, vous verrez quand vous achetez votre ordinateur, quand vous décollez la petite licence, qu'il y a marqué que quand on vous donne le logiciel dans un tel état, mais qu'après ce que vous en faites, ce n'est plus de la responsabilité de la personne qui vous l'a vendu. Donc, il retire complètement la responsabilité, et vous n'aurez peut-être, si vous avez un vendeur gentil, que la possibilité de récupérer le logiciel qui vous manque, mais encore, ça, c'est une autre histoire.
Bah juste un petit conseil en plus, allez chez l'assembleur quoi, parce que chez un petit assembleur en général, il vous propose directement si vous voulez acheter la licence ou pas, enfin Windows. Mais...
C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est les petits commerçants encore une fois qui respectent la loi. Et que ce sont les grands groupes, autant grandes surfaces que industriels de l'informatique, dont tout le monde connaît les noms, qui ne respectent pas la loi. Et qui la contournent. Et parce que ce sont des grands groupes, personne ne dit rien. Et ça, par contre, ce n'est pas normal. Et c'est à vous, c'est à nous de nous défendre, de faire respecter nos droits. Car si nous ne faisons rien, un jour... Nous risquons de les perdre.
Alors qu'en est-il, parce que on a vu là aux États-Unis, on a vu des chaînes de distribution commencer à distribuer des ordinateurs sans système d'exploitation, etc. Mais je crois que ils se voient un petit peu opposés à un certain lobbying, en tout cas aux États-Unis. Est-ce que à votre connaissance, il y a en France des distributeurs qui commencent à se dire que ça serait peut-être une bonne affaire que de proposer des ordinateurs sans système d'exploitation?
Alors, il y a des choses qui sont assez amusantes. Il y a certaines grandes sociétés qui ont signé des accords avec des sociétés Linux. En fait, dans Linux, il y a des sociétés qui existent pour le vendre, comme Mandrake, Red Hat, SUSE, etc. Et elles ont signé des accords en disant, on va vendre vos distributions. Mais aujourd'hui, ce jour, 19 mai, encore, aucun industriel de l'informatique n'a dans son catalogue, que ce soit en ligne ou sur papier, pour le particulier, d'ordinateurs à base de GNU Linux ou d'OpenBSD ou d'autres systèmes libres.
Ouais, donc en fait, on va rester un petit peu sur les dents au niveau de la distribution en France. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur vente liée, vente forcée, je vous rappelle que c'est sur http://linuxfrench.net que vous pourrez avoir pas mal de documentation à ce
sujet.
/OEM pour tomber directement sur la page en question. Et bien, on va retrouver Gaël Duval puisqu'on est un petit peu en retard. On est à présent en ligne avec Gaël Duval. Bonsoir Gaël Duval.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Divergence.
Voilà, alors on est en compagnie d'Albert Bruck, de Jean-Claude Stiegler et d'Anthony de l'ECM Kawenga. Alors peut-être en guise d'introduction, une présentation de Mandrake.
Une présentation de Mandrake, donc Mandrake Linux est une distribution Linux créée depuis 1998 et qui a la particularité d'être française, entre autres particularités, et qui a pour vocation d'offrir un système Linux, je dirais, un peu plus simple d'utilisation que ce qu'on peut trouver, en tout cas ce qu'on pouvait trouver quand elle a été créée.
Voilà. Donc l'objectif c'était finalement de transmettre au plus grand nombre un système d'exploitation qui était peut-être réservé à des informaticiens.
C'est ça, parce qu'il y a 5 ans donc maintenant presque déjà rien qu'installer une distribution Linux c'était quand même réservé à un public de techniciens d'informaticiens quand même averti même l'utilisation c'était pas extrêmement simple. Maintenant je pense qu'on est arrivé à un niveau qui est assez proche de ce qu'on trouve dans les OS commerciaux bien connus en termes de simplicité d'utilisation en tout cas.
Alors il y a une question que peuvent se poser bon nombre de ceux qui nous écoutent, qui sont pas des spécialistes, c'est que avoir les différences de prix qu'il y a entre un Windows quel qu'il soit et puis une Mandrake ou une autre distribution Linux, on se demande un petit peu comment économiquement une activité peut être pérenne. Alors peut-être qu'il faudrait un petit peu expliquer à ceux qui nous écoutent justement comment ça marche et puis quelle est la spécificité d'une distribution libre à ce niveau-là.
Alors oui, c'est une question intéressante. Rappelons quand même très rapidement Linux, enfin Mandrake Linux, donc ça repose sur une idée que l'on appelle le logiciel libre, donc qui est un accès libre aux sources et en général gratuit. Donc n'importe qui, enfin pas que les sources, même le produit fini, donc n'importe qui peut aller télécharger nos produits sur Internet par exemple. Et donc on peut se poser la question comment faites-vous pour vendre un produit gratuit? C'est effectivement ça peut poser problème à certains. Nous on a une approche, je dirais, service qui complémente le produit et qui nous permet de gagner de l'argent dessus. Mais c'est un peu comme comme vendre de l'eau en bouteille, c'est un peu la même chose. L'eau en bouteille au départ, elle est gratuite, sauf que au bout du compte, elle est très chère. Mais bon.
Alors peut-être que je vais passer la parole à Albert ou à Jean-Claude Stiegler pour qui va vous cuisiner davantage.
En vous cuisiner, c'est certainement pas le mot, non. Mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi parler de Mandrake et de son club d'utilisateurs. Donc à quoi ça correspond? Pourquoi est-ce que vous avez créé un club qui permette justement peut-être, enfin à mon sens en tout cas, pour l'utilisateur de se montrer solidaire de cette société?
Oui, alors donc justement le club, c'est un peu, ça rejoint la partie service, je dirais, qui est complémentaire au produit. L'idée du club au départ, c'était un peu, ça a pris, je dirais, au départ, c'était plus une idée de créer un club de passionnés qui voulaient absolument nous aider dans notre, je dirais, dans notre business, participer. Et puis finalement, au fur et à mesure, on s'est aperçu que il y avait des besoins. Des utilisateurs qui avaient des besoins et notamment des besoins d'avoir accès à des logiciels supplémentaires par rapport à ce qu'ils trouvent dans la distribution et également avoir d'autres services dans le cadre d'une communauté d'utilisateurs et au fur et à mesure le club des utilisateurs Mandrake s'est avéré être vraiment le complément indispensable de nos produits et ce qui aujourd'hui nous permet de définir un business plan, comment dire, enfin un plan d'affaires pour l'avenir qui est beaucoup plus sain que essayer de vendre continuellement un produit gratuit dans des boîtes avec des CD alors que maintenant de plus en plus d'utilisateurs ont des accès au débit sur internet, peuvent télécharger le produit assez rapidement et il faut savoir que ces deux dernières années les ventes de boîtes de nos produits, toutes distributions confondues, hein, pas uniquement que Mandrake, Linux, les ventes de boîtes aux États-Unis ont été divisées par 10. C'est consécutif uniquement au problème d'accès à haut débit sur Internet parce que en même temps le nombre d'utilisateurs de Linux a explosé. Donc en fait, proposer un produit de base gratuit et ensuite proposer des services additionnels payants est certainement une meilleure façon de voir les choses qu'essayer de vendre des CD comme un logiciel traditionnel avec une licence, quoi.
Donc finalement les éditeurs de logiciels libres si on se limite au modèle économique, ils sont un petit peu en avance sur tout ce qui s'est fait jusqu'à présent où on était resté dans une logique où bah nous on fait un produit, vous l'achetez puis après vous démerdez avec en quelque sorte.
Est-ce qu'on est en avance ou pas? En tout cas, c'est l'avenir qui le dira. Ce qui est certain, c'est qu'on explore des voies peut-être un peu différentes parce que justement on a cette contrainte de gratuité au départ. Mais d'un autre côté, on en profite déjà au départ puisque une grande partie de nos développements en fait sont des choses qu'on intègre dans nos produits, qu'on ne réalise pas forcément nous-mêmes. Nous, on crée plus un lien à tous ces produits pour obtenir un produit final, utilisable par tous. Donc, d'un côté, ça permet à une société comme la nôtre qui a uniquement une quarantaine de développeurs de créer un produit extrêmement compétitif et qui peut concurrencer des solutions genre Windows voire Unix propriétaire, mais d'un autre côté évidemment c'est gratuit donc il y a un handicap donc il faut bien essayer de voir qu'est-ce qui peut marcher comme système économique autour de ça et c'est vrai qu'avec le club on a été vraiment surpris de voir à quel point non seulement il y avait une attente mais de services supplémentaires mais qu'en plus les gens étaient vraiment prêts à participer pour ça, même parfois pour des montants assez importants. Et notamment les entreprises également. On arrive à faire pas mal d'affaires par ce biais-là, parce qu'elles aiment parfois avoir un accès, réservé pour télécharger nos produits, des choses comme ça. C'est tout un ensemble de services, qui fait une plus-value très importante par rapport à un simple CD ou... Voilà.
Je vais vous couper, ouais, parce que le temps passe très vite. Et c'est un autre domaine, en fait. C'est pour vous l'importance, en fait, que cette distribution soit française. On sait qu'il y a Suse en Allemagne. Est-ce que vous pensez que c'est important pour un pays pour sa politique d'avoir une distribution proprement nationale?
Alors ça, c'est une question très intéressante sur laquelle je vais essayer de résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il s'est passé une anecdote, je vais juste vous raconter une petite anecdote assez rigolote. Maintenant, je peux le dire, c'est des gens qui sont plus au pouvoir. Mais il y a 2 ans, on a eu une visite d'un secrétaire d'État au ministère de l'Industrie, en grande pompe au bureau de Mondragsoft à Paris. Et on leur a fait une présentation, etc., du produit. Et puis, on a évoqué ces questions d'indépendance technologique, voire même de sécurité nationale, ce qui s'avère que dans l'armée, notamment française, et puis des services administratifs, on utilise beaucoup de logiciels propriétaires, qu'ils soient Microsoft ou autres. Hein. En l'occurrence, là, on parlait surtout de Lotus Notes d'IBM. Et à un moment, c'était Christian Pierret qui s'est retourné vers son conseiller et qui lui a demandé, mais est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'y a pas de faille de sécurité ou de backdoor qui permette à sa société de venir voir ce qu'on fait ou voir qu'il leur envoie parfois des messages, etc. Et le conseiller, extrêmement ennuyé, a bafouillé et a répondu, bah non, en aucun cas on est capable de garantir ça. Donc on est arrivé vraiment à un point, enfin c'est pas pour être alarmiste ou quoi que ce soit, ou même on est arrivé à un point où on peut confier tout notre système d'information au plus haut niveau à des produits qu'on ne contrôle pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas exactement ce qu'ils font et on sait pertinemment qu'ils font parfois des choses assez curieuses qui communiquent parfois de façon pas du tout transparente. Et donc Linux, évidemment, est une réponse à tous ces problèmes. Et moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à en prendre conscience en France et au niveau européen, évidemment, parce que c'est extrêmement important, ces problèmes d'indépendance technologique et voire même à plus haut niveau de sécurité.
Peut-être juste pour rebondir là-dessus rapidement, est-ce que aujourd'hui en France avec le gouvernement actuel, est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce que on sait que par exemple en Allemagne, pas mal d'administrations sont en train de passer à des solutions libres. Est-ce que on vous sollicite chez Mondragsoft au niveau gouvernemental?
Alors il y a des contacts qui ont été noués déjà depuis déjà plusieurs années avec certains conseillers, certains ministères. Bon, évidemment, parfois ça bouge un petit peu, mais au niveau administratif, souvent on retrouve les mêmes personnes. Donc en général, en fait, on nous aime bien, et ça c'est agréable. Mais par contre, au niveau concret, je dirais que là, il y a encore du travail à faire, parce que même si on nous aime bien, si on nous encourage, etc., pour l'instant, on n'a pas vu réellement de retombées très concrètes. Bon, on a eu quand même quelques contrats, mais pas du tout liés à ces contacts. Bon, on a équipé certains musées du ministère de la Culture, une base aérienne de l'armée de l'air, ce genre de choses. Mais il n'y a jamais eu vraiment de retombées directes. Bon, le but, c'est pas de devenir une entreprise subventionnée à la bulle. Mais c'est vrai que parfois, on aimerait qu'il y ait peut-être une logique un peu plus globale en termes d'équipement informatique, même de recherche technologique, qui aille un peu dans le sens des logiciels libres. Et ça peut paraître important quand même à l'heure où l'industrie informatique française, c'est quand même assez moyen qu'au niveau du logiciel, c'est quand même très américain. Et je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre à ce niveau-là.
À ce propos, Gaël Duval, qu'en est-il de l'avenir de Mondragsoft?
Ah, l'avenir de Mondragsoft, bah écoutez, en tout cas, on prend cet avenir est pris en main. Tout passe par une problématique économique. Hein. On a eu quelques soucis depuis 2 ans dus à des excès qui ont été commis lors de la bulle Internet, ce qu'on appelle la bulle Internet. Donc on a fait ce qu'il fallait, je pense, je l'espère en tout cas, pour nous guérir de ces années un peu folles. Et puis voilà, donc avec ce nouveau business model, avec le club et tout ça, je dirais qu'en ce moment, on est beaucoup plus serein pour l'avenir. Mais réponse d'ici 1 an ou 2, on verra ce que ça donne.
Donc l'utilisateur de Mandrake Linux peut être serein.
Oui, et puis de toute manière, faut jamais oublier que Mandrake Linux est un produit entièrement libre et très ouvert, et que même si jamais on venait à disparaître, ce que je ne souhaite absolument pas, et on fait tout pour que ça n'arrive pas, parce que ça serait vraiment un gros gâchis, le projet serait inévitablement repris par la communauté, par des gens motivés, sans aucun doute. Il y a eu déjà des grandes discussions sur Internet à ce sujet.
Tout à fait. Je tiens aussi à préciser que Mandrake Soft et Mandrake la distribution est la seule distribution commerciale aujourd'hui qui soit entièrement GPL. et c'est actuellement la seule. Je tenais à le dire sans le faire dire à Gaël Duval. On vous remercie d'avoir accepté notre interview.
Merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, retour sur les ondes du 93.9 de Divergence FM. Bonjour à vous si vous nous écoutez sur Internet. Et donc, on a retrouvé notre dernier chroniqueur en ligne. Bonsoir.
Allô, bonsoir.
Voilà, alors je vais peut-être vous demander de vous présenter. On sait que vous êtes un membre ultra actif pour le logiciel libre au sein des institutions, mais plus encore.
Alors ultra actif, on va dire très impliqué. Ça fait en fait 5 ans que je suis impliqué dans le logiciel libre au sein de l'association qui s'appelle la FUL. Puis depuis, je suis dans d'autres associations aussi. Et il se trouve que de par mon travail, c'est vrai, puisque je travaille dans l'éducation nationale, je suis enseignant. Il se trouve que j'ai aussi essayé de faire un petit peu passer l'idée. Mais enfin, je suis loin d'être le seul. Et puis autrement, à titre associatif, et c'est surtout à ce titre-là que je fais pas mal de, on va dire, d'interventions, de choses à droite à gauche, quoi. Voilà.
Voilà. Alors dans ce cadre-là, vous avez eu la gentillesse de nous proposer pour l'émission consacrée au logiciel libre qui aura lieu mensuellement à partir de la rentrée prochaine sur Divergence, de nous proposer une chronique qu'on devait recevoir aujourd'hui. Bon, ça, techniquement, ça a été un petit peu difficile, raison pour laquelle on vous a en direct au téléphone, mais malgré tout, c'est pas plus mal.
Ouais, pas du tout, non. Ce sera ma première chronique radio qui plus est en direct, donc on va dire que ce sera sans filet. Bon, enfin, j'espère que ce sera pas en faisant fuir les auditeurs.
Non, on pense pas. C'est à vous alors.
Écoutez, alors je suis désolé, je suis arrivé qu'il y a 10 minutes en rentrant du travail, donc j'ai pas pu écouter l'émission. Alors je sais pas ce qui a vraiment été dit. Alors ça risque de faire répétition et puis de radoter, mais enfin bon, tant pis, et j'espère qu'on m'en excusera. Parmi les petites idées que je voulais citer là dans cette première chronique, c'était peut-être de parler un petit peu du calendrier prochain, qui est assez riche. Et qui devrait permettre à tous ceux qui sont déjà impliqués ou qui ont envie de s'impliquer ou qui ont envie de découvrir les logiciels libres, eh ben de découvrir la chose et puis de voir un petit peu ce dont il s'agit. Alors pour les amateurs de logiciels et plus précisément de langage de programmation, il y a quand même en France une grande manifestation qui va se dérouler pour les utilisateurs de Perl et qui se déroulera au mois de juillet, du 23 au 25, ce sera à Paris. Et c'est quand même la manifestation européenne à propos de ce langage-là qui cette année donc se tient pour la première fois en France. Et puis toujours en France, c'est aussi à souligner, il y a une autre manifestation européenne elle aussi qui se déroulera cette fois-ci à Brest, non pas en juillet mais en juin, du 24 au 27. Et ça concernera le langage tech, puisqu'il s'agira de la manifestation Eurotech. Alors si on prend des choses très très proches cette fois-ci, il y a cette semaine, si jamais certaines ou certains d'entre vous ont la possibilité, à Paris d'une part, il y a du 21 au 23, il y a Autour du Libre, qui se déroule à Paris même, et qui est une manifestation qui dure 3 jours, qui se répète d'année en année. Il y a aussi une autre manifestation qui s'appelle les Trophées du Libre, qui se déroulera à Soissons vendredi prochain. Alors Soissons, c'est pas Paris, c'est vrai, mais c'est juste à 1 heure, c'est pas loin, c'est juste à côté. Et il y a la remise d'un concours qui s'est déroulé au niveau européen, qui est un concours qui s'appelle les Trophées du Libre. Donc ça, c'est cette semaine. Et alors entre les deux dates que j'ai citées, il y a Orsay pour les Parisiens, où il y a une install party fin juin, le 28 exactement. Et alors, autrement aussi en juin, c'est assez riche et c'est ailleurs encore en France, donc ça peut être intéressé certaines ou certains. En Savoie, à Archamps, je suis peut-être en train de me tromper, c'est en Haute-Savoie, il y a le 18 juin une manifestation sur les logiciels libres dans l'éducation, qui est un vaste sujet, où, au cours de laquelle il y aura des conférences, des démonstrations, des stands, des ateliers, enfin pas mal de choses. Donc ça c'est le 18 juin. Et puis alors, avant l'exclusivité au niveau des dates, parce qu'il y en a une, il y a du 9 au 12 juillet, j'espère que les auditeurs sont toujours à écouter avec cette avalanche de dates, il y a les rencontres mondiales des logiciels libres. Alors cette fois-ci, c'est plus du côté des Alpes, c'est plus du côté de Paris, c'est à Metz, ce sera à Metz du 9 au 12 juillet. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a un thème sur l'éducation, mais il y a un thème aussi sur la recherche. Il y a un thème également sur les implications citoyennes. Il y a pas mal de choses, y compris des choses plus informatiques, de développeurs. Et donc ça, c'est une manifestation assez importante qui se déroule depuis 2000 et qui cette année donc sera à Metz pendant du 9 au 12 juillet. Ça, c'est pour les dates. Autre petite chose qui me tenait à cœur en espérant, d'après mon chronomètre, ça devrait être bon, ne pas trop arriver à la fin et en débordant. Il y a un autre sujet, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est trois dangers qui guettent malheureusement les logiciels libres. D'une part, c'est toujours l'éternel qui dure depuis quelques années et à propos duquel on arrive à la date butoir, le problème des brevets sur les logiciels qui ont peut-être été évoqués au cours de l'émission. Donc les brevets logiciels, il y a pas mal de renseignements, notamment sur un site qui s'appelle Eurolinux. Et les brevets logiciels, c'est quelque chose qui risque d'être très dangereux pour l'informatique en général.
Et destiné la mort des petites et moyennes entreprises.
Entre autres, et le fait aussi que au niveau libertés individuelles et possibilité de développer pour les personnes, ce sera la fin, mais pour le tissu économique, ça risque d'être catastrophique, tout à fait d'accord, ouais. Il y a deux autres choses, c'est le problème du droit à la copie privée, avec l'application de la directive EUCD, qui est aussi un problème qui est actuellement en cours et à propos duquel il y a une forte montée des utilisateurs et de logiciels libres et d'une approche qui pour l'instant est toujours le fait d'avoir le droit de faire une copie privée pour soi et qui est remise en cause avec l'application, ou plutôt la transposition du copyright et de ces aspects-là assez pointus des fois, assez rébarbatifs, mais qui concrètement risque de mettre un certain nombre de freins à l'utilisation personnelle que l'on a simplement de support numérique par exemple. Et puis le troisième danger, la troisième chose qu'il faut avoir à l'esprit et à propos de laquelle il faut peut-être dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord, c'est tout ce qui va concerner TCPA, Palladium et tous ces systèmes qui visent à soi-disant sécuriser. Alors peut-être que pour les entreprises, ça peut être pertinent pour un directeur informatique d'être tranquille quant à savoir ce qu'il y a sur les machines des utilisateurs. Bon, enfin, avoir la limitation quant au fait d'installer ce que je veux sur ma machine, c'est une attaque claire et assez directe sur la liberté individuelle que l'on a à propos de l'outil que l'on a acquis. Et ça, ça risque d'être aussi un sujet, ça l'est déjà très très chaud au cours des prochains mois. Voilà pour les trois petits dangers, plutôt les trois gros dangers, je dirais, qui guettent les logiciels libres. Et ça va plus loin que les logiciels libres. C'est pas seulement au niveau de l'informatique, ça a des implications qui sont bien plus larges. Pour finir, ce serait simplement de dire que au niveau des utilisateurs, je pense qu'il faut pas du tout avoir honte des logiciels qu'on utilise et d'utiliser aussi les mêmes manières, les mêmes méthodes qui sont en un sens bonnes de publicité quant aux outils qu'on utilise. Et que ce soit si j'utilise OpenOffice, OpenOffice.org, c'est le nom exact, que ce soit si j'utilise Scribus, que ce soit si j'utilise LaTeX, Vim ou Emacs, de le dire, à la limite même de l'écrire à la fin des documents. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec les logiciels libres, c'est quand même le seul cas où je peux, avec les outils que j'ai, non seulement diffuser les produits qui ont été générés avec ces outils, donc les documents, ça c'est classique, mais surtout, je peux remettre à l'ensemble des utilisateurs qui sont intéressés, à l'ensemble des élèves, par exemple. Dans le monde de l'éducation, c'est quand même un problème assez présent et avec une solution pertinente pour le logiciel libre, qui est donc de dire, mes outils vous intéressent, j'ai le droit de vous les donner, j'ai le droit de vous les remettre, et vous avez le droit de les utiliser, de les diffuser, de les recopier, et ça sans aucune illégalité, en étant donc tout à fait dans votre bon droit. Et ça, si on utilise du libre, faut pas hésiter à le diffuser, à le dire aux autres et à parler des logiciels qu'on utilise. Je pense qu'on peut en être fier quand on voit certaines réalisations. Et je pense notamment, et là j'ai eu un coup de cœur, si on peut dire, à propos de Knopix, la distribution qui tourne tout en mémoire vive et qui permet de découvrir ce que c'est que GNU Linux et ça de manière assez impressionnante. Knopix, c'est un très très bel outil et si vous avez jamais entendu ce nom-là, c'est peut-être à retenir. Sinon, diffusez-le et ça mérite amplement d'être connu. Parce
tout à
que
fait.
Je dirais que là, c'est non seulement l'illustration parfaite de ce dont le libre est capable, mais il en est capable et il le fait.
Thierry ?
Oui, et on déborde.
Oh, déborde.
Et voilà,
on va être obligé
de... tout. Alors, le bavard, vous souhaite une bonne fin d'émission.
À la rentrée.
À la rentrée avec plaisir, avec plaisir.
Voilà.
Ça sera très bien. Donc, bonnes vacances à tous et puis j'espère lors d'une de ces manifestations ou sinon de m'écrire. Mon email est disponible sur pas mal de sites.
Tout à fait.
Voilà.
Merci.
C'est
à
moi.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ben on remercie Thierry Stoer. Oui, j'espère que vous avez noté tous ces rendez-vous. Il nous manquait un agenda dans cette émission. Et puis, ben c'est vrai qu'on avait parlé de TCPA la dernière fois, mais sans doute que les brevets logiciels et puis le droit à la copie privée seront des thèmes qui seront abordés dans les émissions futures de cette carte blanche au logiciel libre. Le nom de l'émission future, eh bien on va se le brainstormer pendant le courant de l'été.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos idées.
Voilà, vous pouvez aussi nous envoyer vos idées en allant sur www.divergence-fm.com et d'ici là, il y aura même un forum sur l'émission elle-même. En tout cas, restez à l'écoute. On va se quitter là, hein, l'heure tourne. On va remercier Albert Bruck de nous avoir rejoint entre les voitures et les gouttes, Anthony et puis Jean-Claude Stiegler. On se retrouve donc à la rentrée. Ce sera sans doute le quatrième jeudi du mois, ça reste à confirmer. Restez à l'écoute du 93.9, du site internet de la radio. En tout cas, vous serez au courant, il n'y a pas de souci là-dessus. On va remercier aussi Cyril Hugo qui a assuré la mise en onde de cette émission et qui
au
téléphone. Ben merci à moi bien sûr, je suis là pour ça. On va remercier Albert aussi pour bien la nouvelle mouture du site internet de Divergence qui répondra au www.divergence-fm.com dans quelques heures,
D'ici 24 au maximum.
Voilà, Albert qui a contribué très contributivement à la divergerie.
Qu'avec le logiciel libre, je tiens bien à préciser, le nouveau site de Divergence FM est entièrement réalisé avec des logiciels libres.
Voilà, et très bientôt, Divergence FM n'utilisera que des logiciels libres, qu'on se le dise. Voilà, on se quitte avec notre petite musique de générique. Bonne soirée à tous, bonne continuation, et puis restez à l'écoute.
À bientôt.
Bonsoir.
Nous sommes faits d'eau, mais inégalement répartis, notre cerveau en contient 80%. Ça ne fait pas maigrir, à condition bien évidemment de la faire bouillir.
Divergence FM. 93.9, 93.9, 93.9, 93.9, 93.9, 93.9.